Bien, bon, ben on va démarrer donc ce deuxième cours qui concerne en fait les interfaces entre la science des matériaux, la biologie et la médecine. Donc pendant les deux prochains cours, je vais vous parler essentiellement d'approches vers des matériaux bio-inspirés ou des approches biomimétiques. Donc vous allez voir dans les deux prochains cours, il y a pas mal de recouvrements finalement. Aujourd'hui, je vais peut-être plus m'attacher à vous montrer de façon assez élémentaire quelques modes de construction. Et la prochaine fois, je vous montrerai un petit peu plus des aspects fonctionnalités, les fonctions qu'on peut développer. Et la fin du cours, en fait, fera parfaitement la transition. Alors, si on regarde les matériaux naturels, il y a trois exemples que j'aime bien, je dirais. Il y a l'exemple qui concerne la relation en fait, entre les processus de biomolécularisation et les processus d'auto-assemblage. Donc là, je reprendrai un exemple que j'ai déjà décrit il y a quelques années dans la leçon inaugurale, c'est celui de la carapace de crabe. Le second exemple va concerner finalement les aspects de l'autoréparation ou comment les matériaux guérissent. Les matériaux naturels savent guérir et bon, il y a quelques tentatives que je jugerais pour l'instant encore, malgré tout, naïve dans le domaine de l'autoréparation, mais c'est un domaine qui est en train de se construire. Et je finirai en fait par vous montrer quelques exemples qui concernent finalement des surfaces particulièrement intelligentes, et en particulier, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dans le sous-titre. En fait, la survie implique une certaine forme d'intelligence, et je vous montrerai pourquoi. Alors, si on regarde maintenant le premier exemple, donc les aspects de biomolécularisation, que l'on regarde du côté des cuticules des crustacés ou du côté de l'os humain, bon, qui peut être compact ou spongieux, vous avez en fait dans les deux cas des processus d'auto-assemblage qui se mettent en route en utilisant en fait de la matière organique, de la matière biologique. Ce sont essentiellement des biopolymères. Donc du côté gauche également, principalement donc des polysucres et des protéines, mais essentiellement des polysucres. Et comme phase minérale, c'est du carbonate de calcium. Et du côté droit, vous avez bon, bien entendu des protéines, mais des protéines multiples. Et comme phase minérale, du phosphate de calcium. Donc je vais plutôt vous présenter l'exemple du côté gauche, donc la synthèse, l'évolution finalement, la construction de carapace de crustacés. Donc la carapace de le cuticule en fait de nombreux crustacés est essentiellement composée d'un minéral qui est du carbonate de calcium, c'est-à-dire la même composition que ce que vous trouvez dans de la craie, et un polysucre, la chitine. Donc c'est un sucre, c'est-à-dire que ça a les fonctionnalités d'un sucre, mais c'est porteur de fonctions azote. Alors quand vous regardez les processus en fait d'auto-assemblage dans ces systèmes-là, qui ont été beaucoup étudiés, vous voyez, par Marie-Madeleine Giraudy et par Yves Bouligant, en fait ce qui se passe, c'est que vous avez au départ bon, de la chitine moléculaire qui s'assemble par affinité en unité cristalline, qui s'assemble à nouveau à une autre échelle en microfibres, en se combinant à chaque étape forcément avec du matériel protéique. Ces microfibres se transforment en tiges, vous voyez des tiges de 100 nanomètres, et à partir du moment où vous commencez à former des objets anisotropes dans un certain rapport de fraction volumique, vous avez bon, des modèles relativement simples qui ont été développés, je dirais, dans la première partie du siècle dernier, le modèle d'Onzaguet, qui vous dit, lorsqu'on a atteint une certaine fraction volumique d'objets allongés, en fonction de leur anisotropie, eh bien, on va former des assemblages qui ne vont pas être totalement aléatoires, on va former des assemblages qui sont des cristaux liquides. Et donc, en fait, de façon très simple, ce qui se passe, c'est que la nature s'est formée des analogues de cristaux liquides et la minéralisation a lieu finalement dans ces gabarits, dans ces assemblages, donc par précipitation du carbonate de calcium. La source de calcium, c'est un sel et le carbonate vient du CO2. Donc c'est typiquement une structure hiérarchique. Et alors quand vous regardez au niveau de la microscopie électronique ces assemblages, vous voyez que finalement, bon, ces assemblages forment des sortes de contreplaqués, des structures en contreplaqué, et vous voyez qu'il y a une structure hélicoïdale simplement parce que les biopolymères naturels sont porteurs de carbone asymétrique et donc finalement vous avez une certaine chiralité, vous obtenez ce qu'on appelle des assemblages d'analogues de cristaux liquides cholestériques. Et donc lorsque vous faites les coupes obliques de ces systèmes-là, ce que vous voyez ici, c'est finalement un tissu qui a été déminéralisé, c'est-à-dire qu'on a enlevé par un lavage en milieu acide, un acide faible, type un acide acétique, la partie carbonate de calcium, et ce qui permet d'étudier finalement la structure de la partie organique. Ce que vous voyez, c'est ces formes en arceaux qui sont bien caractéristiques des coupes obliques, en fait, qui correspondent à ces structures en forme de contreplaqué. Et ça révèle, vous voyez, une porosité également qui n'est pas mal organisée, je dirais, mais il y a une porosité qui est à peu près bien calibrée. Alors, le message en fait, que nous envoie ce processus d'auto-assemblage, c'est d'une part, pour faire de la biomolarisation, il y a des éléments, je dirais, de base, les plus simples, même voire les plus simplistes, c'est des processus d'auto-assemblage, minéralisation dans des conditions de température relativement douce, et je dirais que si on part ne serait-ce que de ces deux éléments-là, eh bien on doit être capable de construire des matériaux par auto-assemblage. Alors la base de l'auto-assemblage, c'est la formation de cristaux liquides, et les systèmes qui donnent de la façon la plus simple les cristaux liquides, ce sont les savons. Donc les savons, finalement, ce sont des matériaux qui sont des composés qui sont obtenus sous forme micellaire. Ça permet d'encapsuler, par exemple, les salissures. Et donc, ce sont des systèmes amphiphiles avec une partie hydrophobe, une partie hydrophile. Et donc, une fois qu'ils se trouvent dans l'eau, pour optimiser l'énergie de surface, eh bien, il y a formation de ces micelles. Et lorsque la concentration augmente, eh bien, vous pouvez passer simplement de micelles sphériques, cylindriques, voire des systèmes lamellaires, où, j'irais, la concentration augmentant, un ensemble de micelles cylindriques peut constituer un cristal liquide, par exemple comme celui-ci, un cristal liquide et hexagonal. Et donc, on va pouvoir utiliser de façon assez simple ces assemblages de cristaux liquides à base de micelles en tant que gabarit, en tant que moule, en fait, pour réaliser finalement les réactions de minéralisation, donc les réactions de formation des réseaux minéraux. Alors, et bien évidemment, on ne s'arrête pas dans le choix des systèmes à des molécules de savon. La chimie est très riche, en particulier quand vous regardez du côté des polymères à bloc amphiphile. Vous voyez, on peut avoir des structures tout à fait merveilleuses. Elles sont simplement modélisées avec ces couleurs. Des structures qui commencent déjà à être bien plus complexes que les petites structures simples que je vous ai montrées précédemment. Et à nouveau, ces structures un peu complexes de polymères à blocs peuvent être utilisées comme gabarit pour faire de la minéralisation. Alors, donc, la chimie que l'on peut mettre en face, c'est une chimie que je vous ai déjà racontée plusieurs fois donc, dans les différentes leçons. C'est simplement une chimie donc, de condensation à température ambiante, ce qu'on appelle la chimie sol-gel ou la chimie douce, en partant donc, de précurseurs qui sont réactifs, comme celui-ci, rajouter de l'eau, on déclenche une réactivité encore plus accrue en formant des silanols, et ces silanols, en fait, donnent des réactions de polycondensation pour former, voyez, des réseaux, et tout ça, ça peut se faire à température ambiante. Alors forcément, vous partez d'objets moléculaires de petite taille, et lorsque vous pouvez, par exemple, également, bon, j'oubliais, c'est que finalement, comme tout ça, ça se fait à température ambiante, eh bien, le précurseur de départ peut être simplement fonctionnalisé par une fonction organique. À peu près tout ce que vous pouvez imaginer comme type de fonction organique. Il y en a énormément qui sont commerciaux, mais aujourd'hui, je pense que les chimistes en organométallique savent à peu près faire, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ce n'est pas ça l'étape limitante. Ensuite, vous polycondensez donc ces précurseurs réactifs pour former des réseaux. Et donc ces polymères, lorsqu'ils sont plus grands, eh bien, vous passez à des étapes où vous obtenez déjà des formes colloïdales, donc c'est-à-dire des petits objets qui arrivent à être stables dans le solvant selon les conditions physico-chimiques, ou bien, voire des gels, voire des poudres précipitées. Donc on peut utiliser ce genre de chemin réactionnel, cette chimie douce, pour minéraliser. Et alors quand on couple les deux, en fait, l'aspect auto-assemblage en présence de molécules de tension active, de savon, et cette chimie de polycondensation minérale, eh bien, très simplement, on arrive à créer justement des systèmes qui s'auto-assemblent. Bon, dans le cas présent, en fait, c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on ne forme pas d'abord le gabarit et ensuite on minéralise. En fait, c'est un système que l'on appelle coopératif. La formation des micelles se forme coopérativement avec le début du processus de condensation des petites espèces silicatées. Ensuite, la condensation de la partie bleue minérale s'étend pour former, vous voyez, des phases hybrides où finalement on retrouve l'empilement des micelles, l'empilement hexagonal dans le cas présent des micelles de tensioactifs, donc de savon. On élimine le tensioactif et en fonction du choix du précurseur du départ, c'est-à-dire si j'ai simplement un précurseur totalement minéral, eh bien, j'obtiendrai à la fin un réseau minéral de type oxyde, une silice dans le cas présent. Après avoir lavé finalement, vous voyez, éliminé le savon par lavage ou par traitement thermique. Et si j'ai fait le choix d'avoir une molécule fonctionnelle avec un petit groupement orange qui représente à nouveau, je vous le dis, à peu près n'importe quel type de fonctionnalité, eh bien, je vais avoir une phase hybride. Mais comme j'ai un réseau qui est périodique, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une fluctuation de densité, plus exactement, qui est périodique entre la partie bleue qui représente en fait de la matière et la partie blanche qui représente finalement du vide, eh bien, je vais obtenir en fait une réponse que je vais pouvoir analyser avec les outils habituels en fait, qui permettent de faire des analyses sur les réseaux périodiques, c'est-à-dire les rayons X et la microscopie électronique. En particulier, vous voyez au niveau microscopie électronique, ça c'est un cliché qui vous montre en noir, vous voyez la structure hexagonale très bien organisée. En fait, en noir, c'est ce sont les murs, ce que vous voyez en bleu ici. Et les parties blanches, finalement, représentent les petits trous de la structure. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut en faire plein de choses de ce genre d'approche. Bon, d'une part, on peut changer les conditions physico-chimiques. Et donc, on va pouvoir, de ce fait, adresser des structures, des textures qui vont être différentes. Vous voyez, bon, donc, des structures qui vont être cubiques, qui peuvent être totalement interconnectées. Ou tout simplement hexagonales. Ce sont en général les plus communes, c'est celles qui avaient été découvertes en premier. Donc on peut, à partir de ce moment-là, vous voyez, la taille des trous, en fait, ici, c'est typiquement quelques nanomètres, ce qui veut dire que ces matériaux-là vont développer de très grandes surfaces et on va pouvoir les utiliser dans un grand nombre d'applications, comme par exemple la catalyse, les capteurs, ou, comme je vous le montrerai dans la cinquième leçon, comme des vecteurs thérapeutiques, comme des supports pour des médicaments ou bien pour des sondes pour l'imagerie. Alors, vous voyez les réseaux hexagonaux en nid d'abeille. Bon, comme leur nom l'indique, ça c'est la photo d'une ruche. La seule chose, c'est qu'ici, l'échelle, c'est quelques millimètres. Alors, quand vous faites ça par auto-assemblage à l'échelle du nanomètre, c'est la même. Vous voyez, c'est un nanoréacteur catalytique. C'est un système qui est totalement mésoporeux. Vous voyez, la qualité de l'ordre qui est absolument magnifique. Alors, on l'utilise à quoi? Eh bien, on l'utilise, par exemple, à transformer, finalement, de la matière organique, vous voyez, styrène, benzène, toluène, via une réaction d'oxydation en dérivés carbonylés ou du phénol ou de l'alcool benzylique, avec des rendements qui sont relativement conséquents parce que non seulement on a le maximum de catalyseurs en surface, mais également on a une très bonne accessibilité de ces systèmes. On peut également utiliser finalement la partie hybride, donc faire des composites en fonctionnalisant, comme je vous ai dit, les mésopores, donc les nanopores, avec des fonctions organiques, en choisissant une fonction organique au départ. Et donc, on va avoir un mésopore, un pore fonctionnel avec une fonction, je dirais, dans le cas présent, c'est une fonction pour faire un capteur, mais on peut imaginer d'autres types de fonctions. Alors, cette fonction, qui est une bêta-dicétone aromatique, est non fluorescente, telle qu'elle, mais dès qu'elle capte, par exemple, un polluant du type BF3, qui est un gaz toxique qui est utilisé en microélectronique, eh bien, elle forme ce complexe, et ce complexe-là est fortement fluorescent. Et donc, il y a une très forte sensibilité pour deux raisons. D'une part, c'est que vous avez une énorme surface, plusieurs centaines de mètres carrés par gramme. Et deuxième raison, c'est que vous faites une détection en fluorescence. Et tout le monde sait qu'une détection en fluorescence, c'est beaucoup plus sensible qu'une détection en absorption. Alors, bien évidemment, on ne se limite pas à utiliser en fait, ces approches pour des matériaux qui peuvent se faire qu'à température ambiante. il y a aussi des contraintes. Des fois, on est obligé de monter en température pour obtenir des systèmes qui nanocristallisent, parce que simplement les propriétés des matériaux cristallisés, lorsque les murs sont cristallisés, eh bien, ça ouvre en fait tout un éventail d'autres types de propriétés. Et donc, vous voyez, ça, c'est un travail qu'on a publié dans l'équipe récemment, où on utilise exactement les mêmes concepts, c'est-à-dire de la chimie douce, de l'auto-assemblage, pour créer dans un premier temps, je dirais, la surface texturée avec le maximum de porosité. Et ensuite, bon, bah, il y a un ajout de catalyseur. Bon, il y a un peu de détails expérimentaux. On est sur des substrats qui sont orientés, sinon ça ne marche pas. Et par traitement thermique, à 900 degrés, on obtient, voyez, des structures dans lesquelles on répète en fait cette organisation. Mais tout ça, c'est du quartz parfaitement cristallisé. Alors derrière tout ça, ben, il y a le développement également de capteurs. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la stratégie d'auto-assemblage peut être utilisée dans une première approche, mais il y a un moment où on peut finalement utiliser des conditions de température plus élevées si on veut simplement faire de la transformation de matériaux. Également, c'est ce que l'on fait dès qu'on s'intéresse aux aspects énergie ou aux aspects catalyse, photocatalyse, pile à combustible, puisque parmi toutes ces compositions qui sont des oxydes, vous voyez, très riches, qui montrent un peu la richesse de la chimie et tout ce qu'on peut utiliser dans le tableau périodique. Donc tous ces systèmes-là sont intéressants, mais à partir du moment où on les cristallise. Et donc, de la même façon, on peut utiliser des processus d'auto-assemblage, mais dans ce cas-là, les murs, cette fois-ci, sont cristallisés. Et donc, forcément, ça va demander un traitement thermique supplémentaire. Donc, toutes les premières étapes jusqu'à la formation de la mésostructure organisée, c'est ce que je vous ai montré, c'est cette analogie, je dirais, entre les processus d'auto-assemblage et de biominéralisation. Mais au-delà, eh bien, on doit également passer par une étape de chauffage. Alors le TiO2, par exemple, dont tout le monde parle, c'est bien connu, c'est un semi-conducteur, donc qui est intéressant à la fois pour les aspects photoélectrolyse de l'eau, puisque dès qu'il est irradié par des photons à la bonne longueur d'onde, eh bien, vous créez des porteurs de charge qui peuvent être soit utilisés pour des réactions de catalyse, et donc ça va faire de la photocatalyse, et ça peut permettre de détruire des polluants, ou bien ça peut être utilisé lorsque vous mettez ces porteurs de charge dans un circuit et vous les faites travailler dans le cadre de réactions d'oxydoréduction, eh bien, ça va vous permettre de récupérer un courant. Alors, le deuxième exemple concerne en fait l'aspect autoréparation. Donc, les matériaux naturels, bon, ce sont des matériaux qui, dans l'ensemble, peuvent guérir ou s'autoréparer. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est de façon très simple, à nouveau, un certain parallèle entre les structures ou les modes d'autoréparation dans certains matériaux naturels, et puisque les chimistes aujourd'hui essayent de développer, en particulier en se centrant sur les exemples qui concernent les élastomères, parce que finalement, les élastomères, bon, c'est du caoutchouc, il y a déjà une certaine mobilité, vous sentez bien que ça va être un terrain, je dirais, un terrain scientifique plus facile que des systèmes thermodurs ou autres, qui seront également très intéressants au niveau industriel, mais qui vont demander finalement une réflexion et un travail un petit peu plus important. Alors, lorsqu'on regarde les aspects autoréparation, l'endommagement, finalement, c'est un phénomène multi-échelle. Lorsque vous observez une rupture à l'échelle macroscopique, donc macroscopique, c'est ce que peut détecter très facilement l'œil, donc c'est le millimètre. Eh bien, en général, cette rupture observable, elle résulte en fait, voyez, d'une hiérarchie d'effets dont, je dirais, à l'échelle microscopique, 0,1 micron, 10 microns, ça ne se voit pas à l'œil, mais ça se sent au doigt. Eh bien, si c'est un fendillement. Ensuite, à l'échelle supramoléculaire ou mésoscopique, type 100 nanomètres, eh bien, il y a des glissements de matériaux, des glissements de polymères lorsque vous travaillez sur des matériaux polymériques. Mais in fine, à l'échelle atomique, ce que vous faites, c'est que vous cassez des liaisons. Vous cassez des liaisons chimiques. Et donc, eh bien, il va falloir contrôler finalement toute cette dynamique et également la dynamique de rupture de ces liaisons. Et ça va être une des clés pour pouvoir réaliser des matériaux autoréparables. Lorsqu'on regarde maintenant les liaisons chimiques, l'éventail des liaisons chimiques, eh bien, évidemment, il y a les liaisons covalentes ou ionocovalentes, qui, elles, bon, sont des liaisons très fortes. Et donc, en général, on va avoir beaucoup plus de mal à réparer les systèmes en partant de ce genre de liaison, sauf si vous mettez en compétition une réaction chimique qui permet finalement d'accéder à une certaine réversibilité. Donc je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais c'est plus difficile que dans les autres cas. Sinon, vous avez des liaisons plus faibles, je dirais, ou tout du moins qui ont une dynamique plus importante, comme les liaisons de coordination, c'est-à-dire qu'il y a un métal, un cation entouré de nucléophiles. Et donc là, tous les chimistes savent que finalement, il y a toujours un échange, en fait, il y a toujours une dynamique possible dans ce genre de composés, vu les liaisons chimiques qui sont engagées. Également, bon, des liaisons maintenant, je dirais, plus faibles, mais qui sont très nombreuses, en général dans les matériaux, des liaisons supramoléculaires de type liaison hydrogène, électrostatique, ou des liaisons simplement du type dipôle, comme des liaisons de Van der Waals. Donc vous voyez bien qu'il y a une gradation quand même dans la force, pas seulement parce qu'il y a des effets de coopérativité qui font finalement, on peut avoir des réseaux qui tiennent très bien à base de liaisons supramoléculaires. La nature en est farcie, je dirais. Mais en tous les cas, il y a toute une dynamique. Hein, quand on va descendre vers ce mode de liaison, on va avoir des systèmes qui vont présenter une dynamique de l'interface qui va être beaucoup plus marquée. Alors, si je reviens sur l'exemple du byssus de moule, donc c'est un matériau qui est particulièrement intéressant. Donc, c'est un matériau qui est très extensible, dur, bon absorbant des chocs. La rupture d'un byssus, en fait, c'est une réparation qui a lieu dans l'eau de mer, au bon pH, je dirais. Ça se répare, ça récupère en gros 80% de ses propriétés mécaniques environ en 2 à 3 semaines. Donc, bien évidemment, je dirais que l'être humain est quelqu'un de pressé, et en général, même si je vais vous montrer qu'il y a des systèmes qui s'auto-réparent également en quelques semaines, on a toujours tendance à accélérer les systèmes, soit en chauffant, en apportant un apport d'énergie extérieure, soit avec de la lumière. Alors, si on regarde maintenant de façon assez simple la composition finalement des polymères en fait qui constituent finalement le byssus de moule, en fait, ce sont des polymères à bloc à base de protéines. Vous avez une partie collagène, vous voyez une triple hélice, un faisceau, un espèce de fagot, je dirais, pour le dire simplement, qui correspond à une partie élastique, un élastomère, en fait. Quelque chose qui peut. On sait bien que si on tire sur du byssus, eh bien, une certaine élasticité. Ces hélices de collagène sont flanquées par des domaines latéraux beaucoup plus durs, des domaines réticulants qui sont durs, bon, parce qu'un élastomère tout seul, ben, les propriétés mécaniques, ce n'est pas très intéressant. Votre caoutchouc, il faut bien le réticuler pour faire des pneus, par exemple. Ben, il faut également qu'il y ait des centres de réticulation, des centres qui soient plus durs. Et ces deux domaines sont flanqués finalement par des domaines riches en histidine, ici, qui sont les zones sacrificielles en fait. Et l'histidine finalement, vous voyez, c'est ce composé chimique ici. Et donc tout chimiste, dès qu'il va voir ce genre de formule chimique, il va se dire, bon ben, il y a des regroupements azotés, si j'ai des cations divalents, eh bien, je sais très bien que c'est très facile de former des complexes de coordination. Et c'est ce que fait la nature, en fait, en complexant, finalement, en particulier des cations du type zinc 2+. Et donc, ce sont ces domaines riches en histidine, je le répète, qui vont être les zones sacrificielles. Donc, au moment, finalement, d'une sollicitation mécanique un peu violente, c'est là que ça va... Bon, évidemment, le système va s'étendre, mais l'endroit où ça va lâcher de façon préférentielle, ça va être dans cette zone-là. Alors, je dirais, puisqu'il faut faire un petit peu de philosophie, voilà ce que j'aurais tendance à conclure. Et ça, je pense que vous êtes tous d'accord dans la salle. Donc, quels sont les exemples que l'on peut développer sur cette base? Alors, il y a eu un travail qui a été fait par des collègues anglais, vous voyez, donc ça c'est très proche, en fait. C'est un polymère du type polyéthylène-cobutylène, donc quelque chose qui peut s'étirer, qui a été fonctionnalisé au deux bouts, vous voyez, par des parties organiques très riches en azote. Alors, ce système-là, eh bien, on peut le réticuler en rajoutant, ben, je vous ai dit, à partir du moment où il y a des ligands azotés, il y a une très bonne affinité pour le zinc, le cuivre, les divalents. Ça, c'est les modèles d'acides dur et mou de Pearson. Donc ça, c'est typiquement quelque chose de classique pour les chimistes. Et donc, vous allez former, vous voyez, des systèmes polymériques de ce type, où vous allez avoir du zinc, finalement, qui va être, lui, à la fois, cette partie-là va jouer à la fois la zone de réticulation, mais c'est cette zone-là, en fait, également, qui va permettre la réparation. Alors, si je le dessine de façon, je dirais, assez simple, vous voyez, bon, on a une chaîne, en fait, que l'on réticule grâce, finalement, à ces complexes de coordination, et ça donne ce genre de choses. Alors, le système, bon, on peut en faire des blocs, mais également des films. Alors, évidemment, vous voyez, vous avez un système avec beaucoup d'interactions pi entre ces systèmes aromatiques, et on développe plutôt des réseaux lamellaires. Quand on regarde les propriétés mécaniques, ben, c'est un élastomère avec des modules de Young classiques, je dirais, de l'ordre de 60 MPa, et puis des températures de transition vitreuse qui sont en dessous de la température ambiante. Alors, la zone sacrificielle, je vous le répète, c'est celle-ci. Alors maintenant, voilà ce qui se passe. Donc ici, en haut à gauche, vous avez l'AFM, donc la microscopie en force atomique du film qui a été dégradé, donc coupé. Ce film soumis à une irradiation, vous voyez, il y a un début de réparation, et en fonction du temps, ben, on arrive finalement, en l'irradiant pendant un certain temps, je dirais, à avoir une réparation qui est quasiment complète. Alors ce qui se passe, c'est que simplement, ben, lorsque vous rajoutez une sollicitation externe, donc une irradiation, vous envoyez des photons sur le matériau, eh bien vous avez excitation du complexe métal-ligand et un transfert de chaleur en même temps. Donc vous avez un réarrangement qui est possible de la sphère de coordination et reformation de ce genre de liaison. Alors, la vitesse, le temps pour la réparation va être essentiellement dépendant, finalement, de la qualité de liaison de coordination que vous allez engager sur le centre métallique. Et bon, dans ce qui est reporté dans cet article, c'est qu'en fonction de la teneur en métal, bon, ça c'est assez évident, c'est le nombre de sites de réticulation, mais également de la nature du métal, zinc ou lanthane, vous pouvez réellement optimiser les taux de réparation, et en particulier avec les systèmes à base de lanthane, eh bien, le taux de réparation est proche de 100%. Le second exemple, donc là c'était des liaisons de coordination. Là, je vais regarder plutôt un exemple qui a été développé par Ludwig Leibler à l'ESPCI, qui est basé finalement sur l'utilisation de liaisons hydrogène. Donc là, ce sont des polymères qui sont faits à partir, vous voyez, de polyacides naturels, des triacides ou des diacides organiques gras, qui sont dans un premier temps condensés avec des systèmes à base de polyamine, et l'ensemble est réagi avec de l'urée. Donc vous voyez, donc, j'ai symbolisé de façon assez simple, avec des petites couleurs, je dirais, les différents modes de connexion. Donc ça développe des polymères, qui ne sont pas des polymères, qui sont en fait des oligomères qui vont interagir les uns et les autres pour former en fait un objet qui se tient au niveau physiquement, via, vous voyez, des tas de possibilités de liaison hydrogène, parce que vous développez en fait à la fois des fonctions urée et des fonctions carbonylamine également, qui sont très, très gourmandes en liaison hydrogène. Alors, ce qui se passe dans ces matériaux-là, vous voyez, c'est que vous avez finalement un matériau massif, mais en fait qui correspond à un réseau de petites entités, et j'insiste sur le fait que la tenue finalement à grande échelle, elle est due essentiellement à l'association par liaison hydrogène, et c'est à nouveau en fait cette liaison faible, mais qui présente énormément de dynamique, qui va permettre de l'autoréparation. Alors, lorsque vous fractionnez un de ces composés, un de ces monolithes, eh bien, si vous recollez les deux bouts dans un temps très court, hein, eh bien, ce que vous obtenez, c'est ceci. Ça, c'est la récupération de la contrainte déformation en fonction du temps. Vous voyez, dans des temps relativement courts, 180 minutes, eh bien, vous récupérez une bonne partie, en fait, des propriétés mécaniques du matériau. Alors, les propriétés mécaniques du matériau, vous voyez, à nouveau, ce sont des températures de transition vitreuse qui sont assez faibles, comme dans tous les systèmes élastomères, et qui peuvent être ajustées simplement en rajoutant un peu de plastifiant, de molécules qui vient s'insérer finalement dans le réseau et qui plastifie, qui module finalement ces propriétés mécaniques. Donc, collage immédiat, bon, ce sont des temps relativement courts. Par contre, si vous attendez et que vous collez le système en le laissant reposer, finalement, vous avez deux interfaces qui ne sont pas réactives, parce que finalement, il y a toujours eu de la dynamique, ce qui veut dire que les parties qui finalement sont le plus demandeuses en énergie, au lieu de rester gentiment vers l'extérieur, ce qu'elles font, c'est que ça bouge et que ça re-rentre dans le matériau, hein, puisqu'il y a de la dynamique. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous voyez, le collage n'est pas très efficace. En fait, vous récupérez une partie en fait, des propriétés mécaniques à 180 minutes, mais vous êtes bien en dessous, finalement, de ce genre de propriétés. Alors ça, c'est un peu... Bon, c'est un film que j'ai récupéré, finalement, dans la base de données de Ludwig Leiber. Ce que vous allez voir ici, c'est finalement ce matériau, vous voyez, qui est... Bon, c'est un caoutchouc. Voilà, donc on étire le caoutchouc. Il peut être déformé, vous voyez, jusqu'à 100%, enfin 100% de déformation sans casser. Et lorsqu'on relâche la contrainte, bon, ben, il revient à sa forme initiale. Voilà, donc là, c'est simplement... là, il a été coupé, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les deux bouts sont recollés du matériau. Donc il y a une pression, une petite énergie qui est donnée pour que ça tienne. Et voilà, et ensuite, ce matériau peut être réutilisé tout de suite ou on laisse la réaction se faire pendant quelques heures. Donc ce qu'il va vous montrer là maintenant, c'est qu'il va retirer dessus après l'avoir coupé. Vous voyez, bon, là, ce qu'il signale, c'est la partie qui avait été coupée. Et donc vous voyez, bon, un homme n'a pas la qualité, je dirais, d'une machine de traction. Donc c'est pas une très belle image, mais ça vous montre que le matériau, vous voyez, pour l'instant, il tient. Et il va arriver à 100% d'élongation. Donc ça avait été coupé dans cette zone-là. Donc vous voyez, donc le système s'est auto-réparé simplement parce que la dynamique de ces liaisons hydrogène a permis finalement de reconstituer en fait le matériau, la continuité finalement du matériau. Voilà, donc là vous allez voir un système qui a mal été, qui n'a pas très bien été réparé, vous voyez, donc qui a simplement été collé, mais on voit très clairement encore la forme, donc il y a quand même une adhésion qui est loin d'être négligeable. Donc finalement, vous finissez par le casser. Hein. Donc ça, c'est un système qui a été recollé, je dirais, dans la... Voilà, donc là, c'est un système qui a été recollé et recuit pendant 24 heures. Donc vous allez voir que là, vous avez vraiment un système qui, mécaniquement, même si au niveau de l'esthétique, vous voyez, c'est pas magnifique, et puis au niveau de l'étirement, c'est pas facile de le faire avec les mains, parce que je vous disais, ce n'est pas une machine de traction, et bien vous voyez, vous avez un système qui tient très bien. Hein? Donc ça, c'est un système qui est assez intéressant au niveau de l'autoréparation. Alors l'exemple suivant, finalement, c'est vraiment de mettre un peu les points sur les i, finalement, sur l'importance, finalement, du contrôle des interfaces. Et donc, ce travail, bon, c'est la thèse qui est développée par François Potier au laboratoire. C'est l'utilisation, finalement, de systèmes parfaitement caractérisés. Parce que dans l'exemple précédent, vous avez, finalement, des polymères, vous avez de la polydispersité, vous avez des interfaces, ce sont des liaisons hydrogènes. Mais là, vous allez voir, dans ce cas-là, les interfaces vont être parfaitement contrôlées. Alors, je vous avais dit dans l'exemple du byssus de moule, donc il y a des nœuds de réticulation dure avec des interfaces mobiles. Alors ça, c'est un cluster d'oxyde d'étain, dont bon, je ne détaillerai pas la structure, mais donc c'est quelque chose qui est tel qu'il est là. Donc on a les données structurales au niveau rayons X et par RMN. Et en fait, ce cluster présente, vous voyez, deux interfaces. Ce cluster est un cation, un dication, et il y a deux anions qui viennent compenser la charge. Et cette compensation de charge se fait via un mode électrostatique. Alors l'anion qui vient compenser la charge, on peut le choisir de telle façon à ce qu'il porte un groupement qui soit polymérisable. Et donc à partir de ce composé-là, eh bien, on peut construire des matériaux hybrides en ayant une charge réticulante et une interface qui présente une certaine dynamique. Alors de façon simple, ça donne ceci. Lorsque vous combinez cet objet avec des polymères de type acrylate, donc des systèmes qui vont à nouveau avoir une réponse élastomérique, ça c'est une vue d'artiste, je dirais... très simplifié, eh bien vous allez réticuler finalement vos parties élastomères grâce à ce cluster et en particulier à cette interface qui présente une dynamique, c'est simplement une interface électrostatique. Hein? Et donc, lorsque vous maintenant regardez les propriétés de ce matériau, donc ça c'est le travail de François Potier qui est animé par Laurence Rosès, dans lequel il y a un certain nombre de personnes qui sont impliquées, dont François Ribaud pour la partie cluster. Et donc, vous coupez le matériau, donc la coupure est nette, et vous recollez les deux bouts. Et vous voyez, vous pouvez récupérer une partie non négligeable des propriétés mécaniques. Alors ça, ça se récupère, on récupère finalement au niveau des propriétés mécaniques environ 80% de l'élongation à la rupture, si on attend par exemple 2 semaines à l'ambiante. Mais ce que je vous disais, c'est que les individus sont toujours pressés. Eh bien, en chauffant à 2 heures à 90 degrés, vous obtenez déjà le résultat. Et à nouveau, là, il n'y a pas aucune ambiguïté, puisqu'on a les nœuds de réticulation qui sont parfaitement appréhendés et connus, l'interface est parfaitement connue, et les polymères acrylates, c'est relativement simple. Donc c'est un exemple qui montre bien qu'on réticule un élastomère et on calibre parfaitement une interface, et que cette interface doit avoir de la dynamique pour pouvoir permettre d'auto-réparer un système. Alors maintenant, j'en arrive dans la toute dernière partie de l'exposé, qui va concerner finalement cet aspect-là, donc la bioinspiration à partir de plantes carnivores. Donc ce que je vous disais, c'est que la survie implique une certaine forme d'intelligence. Alors donc ces plantes carnivores, hein, donc ce sont des saracémies pourpres, bon, qui sont absolument magnifiques au niveau de l'esthétique. Et d'ailleurs, elles sont magnifiques parce que ça leur permet d'attirer finalement leur proie dans un certain sens. Donc il y a une première voie d'approche. Alors ce qui est intéressant, c'est la façon dont se nourrissent ces types de plantes carnivores. En fait, elles sont très friandes de certains insectes, et c'est ce que je vais vous montrer sur la prochaine diapositive, le prochain film. Ce que vous voyez ici, là, c'est ce genre de plantes carnivores. Là, ici, ce sont des fourmis. Et la première partie du film, c'est c'est le comportement finalement de la surface ici, la surface de la lèvre de cette plante carnivore lorsque le milieu ambiant est sec. Dans un deuxième temps, vous allez voir bon, lorsque le milieu ambiant devient humide. Alors cette plante carnivore, pour digérer, elle a besoin d'eau. Donc c'est parfait, vous allez voir le résultat. C'est que finalement il y a l'eau, elle sert à deux choses. D'une part la digestion de la plante carnivore, mais également à capter les proies. Alors voilà ce que ça donne. Temps sec, les fourmis se promènent sur le bord, c'est superbe, il n'y a aucun risque. Vous voyez, bon, elles se promènent, bon, ça coutume, il y a une accoutumance. Voilà, voilà. Le système devient mouillé. Alors là, ça commence à être beaucoup plus dramatique, vous allez voir. Moi, c'est un exemple que j'aime bien parce que, vous voyez, bon, je ne suis pas à la place des fourmis, vous me direz. Donc, très clairement, il y a un switch qui dépend de l'humidité. Et le switch, je vous dis, il y a deux choses intéressantes dans ce switch. C'est que d'une part, il faut de l'eau pour la digestion et d'autre part, ça permet de capter finalement le repas, quoi, la fourmi. Alors, si on regarde maintenant au niveau de la microscopie électronique, comment sont faites ces plantes, en fait, au niveau... Donc, ce ne sont pas des systèmes qui sont nanostructurés, ce sont simplement des systèmes qui sont microstructurés. C'est ce que vous voyez ici, via une microscopie en balayage. C'est pas... Là, c'est à peu près organisé, mais ces systèmes-là ne présentent pas des organisations superbes. C'est simplement un système qui développe une certaine surface et une certaine microstructure. Alors, par contre, voilà, si en fait on essaye de modéliser de façon simple ce qui se passe, c'est que vous avez un solide microstructuré, vous avez un liquide en fait qui est infiltré, qui sert de lubrifiant. Dans le cas de la plante, c'est l'eau. Donc il y a une très bonne affinité entre la texture du solide microstructuré, ses fonctions chimiques et l'eau. Et finalement, ça lubrifie finalement des liquides ou des solides qui viendraient se déposer à condition de bien gérer, je dirais, les affinités, donc les énergies, les tensions interfaciales des différentes phases. Dans le cas de la fourmi, en fait, les pattes de fourmi sont plutôt grasses. Donc, en fait, la surface développe une méthode de glissement très importante basée essentiellement sur de l'hydrophilie. Donc, en fait, en utilisant finalement ce genre de concept, on devrait être capable, et je vais vous montrer qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont réussi à le faire, de créer des matériaux assez originaux, en fait, sur lesquels, finalement, il n'y a pas grand-chose qui puisse adhérer. Alors, ce travail, c'est un travail qui a été fait à Harvard par cette collègue, Joanna Eisenberg. En fait, ce qu'ils ont essayé de développer, ce sont des surfaces très glissantes qui sont omniphobes, c'est-à-dire qui ne supportent ni les graisses, ni les mélanges complexes, qui s'auto-réparent et qui sont même stables sous pression. Vous voyez, donc ça, c'est ce que j'ai relevé dans l'article qui a été publié à Nature, simplement parce qu'ils n'avaient pas, les possibilités d'aller à des pressions plus élevées. Et à nouveau, la façon de construire ces matériaux, c'est d'utiliser une surface microstructurée, de l'imprégner finalement juste à ras de la surface avec un liquide B qui va être un lubrifiant, donc on remplit le support poreux. Donc là, on choisit le système de telle façon à ce qu'il y ait une bonne affinité entre le liquide et le substrat, mais que ce système-là n'ait pas une bonne affinité chimique avec les liquides ou les polluants qui seront sélectionnés. Alors, tout ça, c'est bon, dans l'article, pour ceux que ça intéresse, voici les références. Bon, c'est bien décrit au niveau de comment les différentes énergies de surface peuvent être ajustées. Ça ne se fait pas comme ça, mais je vais vous montrer que ça marche très bien. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, la nature des surfaces, la microstructure, ce qui importe globalement, c'est de développer une surface avec des objets qui tournent autour de quelques microns. On n'est pas obligé de descendre à l'échelle nano dans cet exemple-là. Et puis, que ce soit des piliers, vous voyez, parfaitement ordonnés ou un réseau aléatoire de nanofibres, ce n'est pas non plus important. Dans les deux cas, il faut un réservoir poreux. Alors, les expériences, elles ont été faites de la façon suivante. Donc, en utilisant des solides poreux textureux fonctionnalisés, donc vous voyez, ce sont des solides pour lesquels la porosité en fait, est à l'échelle du micron. Donc ça peut être fait de façon très simple à partir d'une résine époxy que l'on fonctionnalise par exemple, un alkoxysilane, vous voyez, fluoré. Donc. Et ça peut être également, on peut utiliser également un téflon poreux dans les deux cas. Alors ce support poreux est lubrifié par un deuxième liquide, le liquide B, qui va présenter une bonne affinité pour ce substrat. Donc là, dans le cas présent, c'est un liquide qui est fortement fluoré, qui a une très faible tension de vapeur, et également, ce qui est important pour conserver finalement le liquide dans la porosité, c'est qu'il y ait une viscosité intéressante. C'est-à-dire, si c'est un système qui est trop volatile ou qui est trop fluide, ça ne présentera pas beaucoup d'intérêt. Alors, donc, ces matériaux, c'est ce que je vous disais, sont optimisés au niveau du bilan énergétique interfacial, donc aussi bien en termes de rugosité, mais l'ordre n'est pas une obligation, et bon, c'est surtout sur les tensions interfaciales qu'il faut essentiellement porter l'attention. En fait, vous voyez, sur ce transparent, ce que j'ai reporté, c'est dans le cas de ces matériaux, les valeurs de différents paramètres physico-chimiques. Et ici, en vert, vous avez les mêmes valeurs pour la fameuse feuille de nénuphar, qui est déjà quelque chose d'assez exceptionnel, je vous ai montré la dernière fois. Vous voyez, hystérèse, angle de contact, entre 2,5 degrés, donc c'est très petit, alors que la feuille de nénuphar, c'est entre 5 et 30, sauf en fonction de l'endroit où vous vous positionnez sur la goutte. Les temps d'autoréparation, c'est des fractions de secondes pour ce genre de système. La feuille de nénuphar, c'est de l'ordre de 180 secondes. Et puis l'adhérence de la glace, vous voyez, très faible, de l'ordre de 15 kPa. Elle est de plus de 100 kPa sur une feuille de nénuphar. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des propriétés? Alors, sur ce film, ce que vous voyez ici, c'est une plaque de verre qui a été fonctionnalisée avec trois types de matériaux. Ici, c'est le fameux matériau, je dirais, bio-inspiré, avec toutes les qualités, je dirais. Ici, vous avez quand même du téflon poreux. Du téflon, c'est ce que vous avez au fond de vos poêles à frire. Donc c'est quelque chose de fort, très fortement hydrophobe. Et en bas, vous avez simplement un morceau de verre classique. Hein. Et donc ce que vous allez voir couler, ici, c'est du sang. Et vous allez voir en fait les propriétés d'adhésion finalement et de, finalement de, d'auto-nettoyage du système. Attendez. Je suis désolé, je suis allé trop vite. Voilà. Hop. Donc vous voyez les gouttes de sang. Donc elles n'adhèrent pas du tout là. Par contre sur le téflon, pourtant le téflon c'est quelque chose où vous adhérez très peu, vous voyez. Alors bon, vous allez voir ensuite sur le verre, ça tache totalement le verre. D'accord. Donc vous voyez la différence. Ça c'est la surface qui est fonctionnalisée. Ça c'est quand même du téflon. Hein, et ça c'est du verre. Deuxième exemple, bon, bah, il fallait quand même montrer un exemple avec une fourmi. Donc là, la surface a été fonctionnalisée à l'intérieur avec le matériau que je viens de décrire de façon assez succincte. Et donc finalement, bon, les pattes de la fourmi sont grasses. Hein. Donc je le précise. Décidément. Attendez. Voilà, donc pour l'instant tout se passe bien. Et vous allez voir, bon, sans trop de violence mécanique, eh bien bon, bah, l'issue est fatale. Vous voyez ? Donc à nouveau, le système, il n'y a aucune adhésion possible pour ce genre d'insectes. Troisième exemple, alors cette fois-ci, vous allez avoir en haut le matériau dont je viens de vous parler. À nouveau du téflon poreux ici, et ici un film très hydrophobe d'aluminium qui a été traité, qui est fortement hydrophobe. Et ce que vous allez voir déposer, c'est plus de l'eau ni du sang, c'est du pétrole brut. Donc en fait, là, on a complètement rebasculé les affinités. Et alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça n'adhère absolument pas. Par contre, le téflon, ça commence à retenir. Bon, il y a. La goutte ne tient absolument pas sur ce genre de surface. Et ensuite, vous voyez, donc, aussi bien le téflon que l'aluminium très hydrophobe, finalement, se tâche, adhère, alors que le système ne le fait pas. Donc là, maintenant, on passe à un autre exemple, c'est de la peinture. Donc il va y avoir une partie qui va être protégée par ce genre de matériaux, ce genre de film, et une partie qui n'est pas traitée. Je crois que c'est la gauche qui n'est pas traitée, je crois me souvenir. Voilà, donc ça c'est. On spray de la peinture. Donc vous voyez, il y a quand même une très claire différence, même si ce n'est pas parfait. Mais là, bon, ben, vous couvrez complètement la surface avec de la peinture, alors que très clairement. Bon, c'est pas parfait, il y a quand même un peu d'adhésion, mais vous voyez, vous n'avez pas du tout d'adhésion. C'est beaucoup plus difficile sur la partie de droite. Maintenant, l'aspect collage sur ce genre de surface. Donc, il va y avoir un sticker qui va se coller, donc un patch. Donc, la partie de droite, c'est la partie qui a été traitée par le matériau dont je vous parle. Donc vous voyez, bon, bah, ça ne colle pas finalement, hein, alors que regardez le collage sur la partie de gauche. Bon, ça n'a rien à voir. Et quand on l'arrache d'ailleurs, on arrache une partie de la peinture du système. Donc de façon objective, il y a une très nette différence, même par rapport à des surfaces qui ont déjà été travaillées au niveau industriel et optimisées en fonction de certaines propriétés. Anti-salissure. À nouveau, c'est un film qui est. Il y a du noir de carbone qui va arriver, voilà. Donc, du noir de carbone, vous savez que ça salit énormément, surtout sur un film poreux. Et donc, on va rajouter finalement une goutte de liquide. Et voilà. Donc, je le refais parce que celui-là, il est peut-être plus difficile à voir. Donc, il est clair qu'à nouveau, vous avez une réponse de cette surface particulièrement adaptée finalement au nettoyage. J'arrive sur les dernières, sur le dernier exemple. En fait, c'est la tenue de la glace sur ce genre de surface. Donc ici, vous avez une surface super hydrophobe, type feuille de nénuphar. Et à gauche, vous avez cette surface, cette nouvelle surface, ce nouveau type de matériau. Vous voyez, bon, il y a de la neige autour, ça se passe à moins 4 degrés. Et vous allez voir un petit peu les possibilités de déplacement de glace. La tenue donc de glace, finalement, sur des vitrages qui seraient fonctionnés de cette façon-là. Pardon. Hop. Donc là, le système va être incliné. Et donc, vous voyez, bon, c'est de la glace, hein, donc ça ne se déplace pas à une grande vitesse, mais il est clair que la glace se déplace ici et pas du tout dans le cadre d'un système super hydrophobe type nénuphar. Alors là, ce dernier film va vous montrer en fait les possibilités finalement d'autoréparation. Parce que ces matériaux-là sont poreux et quand vous coupez simplement avec un cutter, puisque vous avez un film qui est inclus dans la porosité qui surnage, finalement le temps de réparation va être quoi ? Va être le temps de réinfiltration du film dans la plaie que vous venez de faire. Hein ? Alors vous voyez, donc là, à nouveau, c'est la comparaison avec une surface très hydrophobe. Donc il y a une goutte qui ne bouge absolument pas, c'est du pétrole brut. Là, elle est coupée avec un cutter. Et donc, il n'y a aucun effet. Le système présente les mêmes propriétés en quelques fractions de seconde. Voilà. Donc, j'en arrive à la fin de cette leçon sur la bio-inspiration et le biomimétisme. Donc il y a également de nombreux autres exemples qui existent. J'en traiterai un certain nombre dans le prochain cours, dans le cours sur le biomimétisme. En particulier, je vous parlerai des exemples en fait, du Martin Pêcheur, un petit peu du Velcro, mais ça c'est quelque chose de beaucoup plus classique. Et en particulier, j'illustrerai une partie de ma leçon, à la fois avec les propriétés d'adhésion exceptionnelles des lézards geckos et des diatomées. Et donc, j'espère vous avoir au moins illustré, si ce n'est convaincu, qu'en fait la nature est une source d'inspiration pour la science des matériaux et qu'il y a énormément de choses particulièrement intéressantes à trouver. Vous voyez, le dernier exemple que je vous ai montré sur ces surfaces slips, donc qui sont très glissantes, qui ont des propriétés remarquables, finalement, c'est ce que je vous commentais dans la leçon d'introduction, c'est simplement parce que depuis quelques années, les chercheurs s'orientent vraiment vers la compréhension des interfaces multiples. Il y a eu beaucoup de travaux sur les effets nénuphars, hein, en gros de l'eau sur une surface hydrophobe et avec un système trois phases avec de l'air. Maintenant, il y a des groupes de recherche qui s'intéressent à des interfaces liquide-liquide-solide-air, qui ont été finalement beaucoup moins étudiées, mais qui présentent, comme je vous l'ai montré dans la dernière série de transparent, un grand nombre de propriétés intéressantes et également au niveau de la compréhension et de la physico-chimie qu'il y a derrière. Alors bon, aujourd'hui, donc, c'était plutôt une leçon sur la bio-inspiration et donc la conférencière finalement d'aujourd'hui va être Nadine Nassif, qui est chercheuse au CNRS, au laboratoire. Et donc, ça me fait énormément plaisir que Nadine puisse venir faire cette conférence. Elle va vous parler, vous voyez, de recherche donc, sur des nanocomposites hybrides à base de collagène, typiquement des systèmes à base de collagène et de phosphate de calcium. Et donc, elle va vous présenter, on va faire une petite coupure de 5 minutes, et ensuite, elle va vous présenter des travaux qu'elle a publiés récemment, vous voyez, dans des journaux qui sont de très bonne qualité. Et en particulier, il y a tout un aspect très neuf et également dans l'aspect compréhension des mécanismes qu'elle va illustrer au cours de la conférence qui va suivre. Donc ce que je vous propose, c'est une petite coupure de 5 minutes et ensuite Nadine Nassif vous fera un exposé sur ces matériaux très prometteurs où il y a également eu des brevets qui ont été déposés et il y a des possibilités finalement d'utiliser ces matériaux au-delà, je dirais, de l'aspect publication. Voilà, je vous remercie pour votre attention.